Permettez-moi de vous accueillir avec le groupe Antidote, donc Venu du Ciel, un beau rap musical, comme vous avez pu le voir. Alors bienvenue à chacune, à chacun, pour ce culte ici à Mérin, dans cette famille mérinoise. Et ce qui est chouette aussi, c'est de se retrouver pour ce moment communautaire à Mérin, mais aussi dans toutes les églises du monde entier qui fêtent aujourd'hui Jésus-Christ, qui célèbrent aussi la gloire de notre Dieu. Alors bienvenue aussi tout spécial à ceux qui nous visitent, bienvenue aussi à vraiment à tous ceux qui nous suivent de dimanche après dimanche, et bienvenue aussi aux enfants, il y aura un petit moment après pour vous, tout spécialement. Alors je vous propose qu'on remette ce culte dans les mains de notre Père. Seigneur Jésus, nous voulons invoquer ton nom, nous voulons ta présence aujourd'hui parmi nous. Et Seigneur, merci parce que cette famille mérinoise, elle se partage avec toutes les familles dans le monde entier qui te célèbrent aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons aussi tout spécialement penser à ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons de maladie, pour des raisons de doute ou autre chose. Seigneur, nous voulons aussi que tu sois tout spécialement avec eux. Et Seigneur Jésus, j'aimerais aussi invoquer ton nom pour tous ceux qui se trouvent dans les cyclones. Et Seigneur, que tu les protèges. Et Seigneur, que oui, tu les protèges de ces tornades. Alors Seigneur Jésus, nous voulons penser aussi à eux et Seigneur, pouvoir te célébrer ensemble et Seigneur, célébrer avec joie et Seigneur, célébrer avec ton amour et ta présence parmi nous. Nous voulons ta présence, Seigneur Jésus, nous te la demandons. Amen. Voilà, alors je vais laisser la suite au groupe de louanges. Alors merci à Xavier et toute son équipe qui vont nous guider dans la joie de cette célébration. Alors merci à chacune et à chacun.
Voilà. Heureusement, le micro du chanteur marche mieux. Et puis, heureusement, je ne vais pas chanter dans le micro. Bienvenue à tout le monde. C'est dans la joie. C'est en nous souvenant que c'est avec le privilège de vivre dans le Seigneur Jésus et puis de l'avoir dans nos cœurs qu'on veut commencer ce culte ce matin. Vous avez apprécié le morceau de musique du départ que nous a prévu Claude ? Vous avez aimé. Alors, si vous êtes sage, et si vous venez au week-end de l'EM, Thierry m'a promis qu'il l'apprendrait par cœur. Et Lionel amènera sûrement son cajon si Thierry le sait vraiment par cœur. On va le tester avant. T'es d'accord ? Il a dit oui. On va passer un moment dans la louange. C'est pas juste je me lève et je chante. On est dans la présence du Seigneur, c'est à lui qu'on veut, vers lui qu'on veut tourner nos cœurs, c'est dans sa présence qu'on veut être. Écouter sa parole, c'est fondamental, c'est ce qui nous fait vivre. Le louer, c'est lui adresser notre reconnaissance, c'est lui dire notre amour. C'est quelque chose de fondamental. C'est quand tu loues le Seigneur, tu parles à Dieu. On a prévu quelques chants moins connus, quelques chants qui sont plus connus. Si tu as envie de rester assis, reste assis. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux venir devant et puis danser, tu peux. Et si tu veux rester dans ton coin, c'est égal. Seigneur, il voit ton cœur. Peu importe ce qu'il y a autour de nous, on n'est pas là pour créer une ambiance, regarder les uns les autres, on est là pour tourner nos regards vers celui qui nous a donné sa vie, vers celui qui nous a sauvés.
Des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables d'aimer de nous aimer, que nos vies soient acceptables selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de paix nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi. Soit ainsi, nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamés dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de paix nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi. Le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi.
Chanter, oh Dieu.
lune me glace et le soleil me menace. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
On va terminer ce moment de louange avec un vieux chant qui parle, ça parle de bénir le Seigneur. On reçoit beaucoup, il nous donne tous les jours. Il nous accorde la vie, il nous accorde la famille, la nourriture, il nous comble de bienfaits. Et c'est un chant qui parle de bénir le Seigneur en retour pour tout ce qu'il nous accorde.
Sur la terre.
Alors Joanne, oui, viens nous rejoindre. Et je te laisse la suite.
Bonjour à tous. Alors, avant que les enfants vous descendiez dans vos groupes, au dernier colloque, juste avant les vacances, on avait fait une petite présentation de la part du groupe des monos pour vous exposer un petit peu la situation des groupes des enfants, et notamment des moniteurs, la recherche de moniteurs. Et on voulait refaire un petit point, vu que c'est un petit peu la rentrée, avec une semaine de décalage, mais c'est quand même la rentrée, et puis c'est l'occasion de parler à toute l'Église, puisque les enfants, ce n'est pas seulement pour les moniteurs, mais c'est pour toute l'Église, et que toute l'Église se sente concernée par les enfants. Alors, c'était la petite présentation qu'on avait faite. On va passer à la slide suivante. Donc, on avait abordé quatre points, et on va passer au premier point, la mission, qui est toujours la même. Que l'enfant se convertisse et qu'il vive sa foi au quotidien. Et pour nous, c'est quelque chose de très important pour les enfants, et on tient à souligner ça aussi pour les parents des enfants, que vous vous intéressiez à ce qu'ils font pour que durant toute la semaine, ce qu'ils voient le dimanche puisse porter du fruit dans leur cœur. Dans les activités, je profite de rappeler, puisqu'il y a un mail qui a circulé auprès des parents, on passe à la slide suivante, que le 24 septembre, il y a une sortie des potes du dimanche et nous irons à Vitam Park. Les inscriptions sont jusqu'au 15 septembre, donc annoncez-vous, ça va être super. Alors, slide suivante. Alors, pour les enfants, donc on a toujours trois groupes, environ 23 enfants qui côtoient les groupes, qui sont répartis plus ou moins par rapport à leur classe. Donc, il y a les Toons qui sont entre les 1 et 4P, les grands entre 5P et 8P, et puis les ados entre 9P et 11P. Bien sûr que selon les années, on a des fois des petits groupes où on fait passer certains dans un groupe un peu en avance pour équilibrer un petit peu les groupes. Voilà, on passe à la slide suivante. Les monos. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu récupérer des monos supplémentaires. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a plus ou moins un équilibre. Cela dit, trois moniteurs par groupe, ça reste assez faible, mais c'est une très bonne nouvelle. Je tiens aussi à remercier, on les a remerciés indépendamment, mais les moniteurs qui nous ont quittés, Rachel, Elisa, Béatrice et puis bien sûr Dominique, on les remercie chaleureusement pour tout le travail qu'elles ont fait. Et puis on a pu accueillir Chantal Rosset, Gaëlle Cretoni et puis Thomas Diebold. On a aussi Erissou qui s'est proposé ponctuellement pour des activités pour les enfants. Donc on est très reconnaissant de cette annonce-là et de pouvoir avoir suffisamment de monde pour faire les groupes. Je voudrais encore faire venir les enfants devant. Donc les enfants ici, vous pouvez vous lever. Et puis tous ceux qui sont derrière et qui n'osent pas venir, venez devant, les moniteurs aussi. J'aimerais juste qu'on puisse voir au niveau de l'église ce que ça représente, même si tous les enfants ne sont pas là. Ah ouais. Les moniteurs aussi. Ils sont bien. Hein. Voilà, donc on demande aussi que vous pensiez bien aux enfants dans vos prières, aux différents groupes, aux moniteurs aussi, pour être continuellement renouvelés dans ce qu'on a à faire pour les enfants. On a plein d'idées en tête pour la suite. On tient votre soutien en prière. Et puis aussi, pour ceux qui souhaitent apporter une fois quelque chose à un enfant, nous sommes ouverts justement à offrir un peu de diversité dans ces groupes et soulager aussi les moniteurs. Parce que quand on est trois, ça fait une à deux fois par mois selon les situations. Ça fait vite beaucoup. Voilà.
Je pense que c'est vrai que, comme l'a dit Joanne, les enfants, c'est notre terre de mission ici dans notre église. Et je vous propose qu'on aille peut-être un petit moment de prière pour eux. Alors si trois ou quatre personnes dans l'assemblée peuvent prier pour eux, je pense que ça serait une richesse qu'on peut leur amener à nos enfants. Alors je vous propose de prier. Oui Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné ces enfants. Alors c'est vrai Seigneur qu'ils nous sont prêtés, qu'ils vont voler de leurs propres ailes avec leur propre foi. Alors Seigneur Jésus, que nous puissions être des témoins pour eux, que nous puissions leur faire envie, que nous puissions être bienveillants. Et Seigneur, nous aimerions te les remettre, que ta graine, que tu te révèles à eux, que cette foi, cette graine toute petite, Seigneur, grandisse en eux. Et Seigneur, qu'ils puissent te découvrir la richesse et l'amour que tu as pour eux, ils puissent le découvrir. Et Seigneur, j'aimerais te remettre aussi tous les moniteurs et monitrices, Seigneur, qui vont donner, semer cette petite graine, arroser, planter et peut-être moissonner. Alors Seigneur, que tu les bénisses aussi. Amen. Amen.
Seigneur, étant ta bénédiction, je voudrais qu'il te remercie pour l'engagement et nous te demandons de leur donner à chaque occasion où ils sont près des enfants, l'inspiration de ta grâce, l'action de ton Saint-Esprit. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons aussi la joie. Parce que c'est vrai, Seigneur, les enfants, c'est joyeux. Alors Seigneur, nous demandons la joie pour eux. Nous demandons aussi la joie pour les moniteurs, Seigneur, qu'ils ne soient pas essoufflés, mais Seigneur, que tu puisses les renouveler et qu'ils puissent partager ce qu'ils ont dans le cœur avec joie aux enfants. Alors Seigneur Jésus, renouvelle-les et Seigneur, que tu les équipes tout particulièrement pour pouvoir donner vraiment cette joie et l'amour que tu as au fond de chacun d'eux. Alors Seigneur Jésus, bénis-les et nous voulons te les remettre en ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, vous pouvez rejoindre vos classes. Et merci beaucoup. Merci à Joanne. Voilà, je vous propose maintenant que nous entrions dans le vif du sujet, avec après Philippe. Mais tout d'abord, on va vous lire la lecture qui va servir pour la prédication. Et je laisse Séverine vous faire la lecture.
Alors je vais lire dans Romains 1, les versets 1 à 17. Donc c'est assez long, j'espère que je ne vais pas vous perdre. De la part de Paul, qui est serviteur de Jésus-Christ, et que Dieu a appelé à être apôtre en le choisissant pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il était descendant du roi David. Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance, quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur de toutes les nations, pour l'honneur de Christ, afin d'amener les hommes de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous faites aussi partie de ces hommes. Vous que Dieu a appelé pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelé à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Il sait que je pense sans cesse à vous, toutes les fois que je prie. Je demande à Dieu que, par sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. Car je désire beaucoup vous voir. Afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint pour vous rendre fort. Plus encore, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Je veux que vous sachiez, frères, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail produise un résultat chez vous aussi, comme il en a produit parmi les autres nations du monde. Car c'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez Rome. C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. En effet, La bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste aux yeux de Dieu, par la foi, vivra.
Bonjour à chacun, chacune. Merci pour cette lecture, Séverine. J'ai découvert hier que nous fêtions ce week-end les Journées européennes du patrimoine. On n'en a pas beaucoup entendu parler, ou c'est peut-être moi qui n'écoute pas assez la radio ou regarde pas assez la télé. Toujours est-il que dans nos grandes villes, des monuments historiques sont ouverts à la visite. Et il se trouve qu'à Genève, il y a de nombreux monuments historiques. Les gens viennent de loin pour les visiter. Mais il paraît que les Genevois les connaissent moins bien. Vous avez déjà visité de fond en comble la cathédrale Saint-Pierre, les fonts baptismaux, le palais Hénard, la maison Tavel, l'arsenal, le domaine de l'impératrice, le bastion Saint-Antoine. Nous avons de beaux monuments à Genève. À portée de main, mais beaucoup de gens ne les visitent pas ou si peu. Ce que je vous propose pour ce matin, c'est de visiter un monument historique. Un certain nombre de livres bibliques sont des monuments. Ils ont marqué l'histoire de l'Église de manière indélébile. Un verset de l'Épître aux Romains a provoqué la conversion de saint Augustin au IVe siècle. Et il est devenu, saint Augustin, l'un des plus grands penseurs chrétiens de tous les temps. L'Épître aux Romains a bouleversé le moine Martin Luther au XVIe siècle. L'a amené à la conversion, puis à réformer l'Église. Le monde entier en a été bouleversé. C'est encore l'Épître aux Romains qui a touché John Wesley au XVIIIe siècle, en donnant lieu ensuite à un immense réveil en Angleterre. Et puis, plus près de nous, le réveil de Genève au XIXe siècle, avec Robert Haldane, c'est encore les Romains. Un monument, les Romains. Et ce matin, nous allons courtement visiter ce monument. Qu'allons-nous faire de ce que nous y trouverons? La réponse vous appartient. Nous avons donc entendu la lecture des 17 premiers versets qui constituent comme une introduction à la lettre. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome pour les édifier, pour les instruire, pour leur faire du bien et lui-même recevoir en retour. Et il commence par se présenter et par présenter l'essentiel de l'Évangile. Cette église de Rome était éclatée sur 5 sites différents, au moins. Elle était diversifiée. Il parle de gens sages, il parle de gens moins instruits. Elle était multiculturelle, des juifs, des non-juifs. Elle comprenait des gens aisés, elle comprenait des esclaves aussi. Et tout ce monde-là va se retrouver uni autour de l'Évangile. Mais c'est quoi au juste l'Évangile? C'est quoi au juste l'Évangile? L'amour du prochain? Dieu qui vous dépanne si vous avez une fin de mois difficile? Venez régulièrement au culte et vous serez bénis. Faites un maximum de bonnes choses dans la vie et avec un peu de chance, Dieu vous récompensera. Non, ce n'est pas cela l'Évangile. Dans la partie que nous avons lue ensemble, il me semble discerner quatre choses incontournables que nous pouvons résumer par quatre questions. Quelle est la source de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il raconte, l'Évangile? Quel est son but à l'Évangile? Et finalement, comment atteignons-nous ce but? Ou comment ça marche, l'Évangile? Quelle est la source de l'Évangile? Si ce matin, vous et moi, nous croyons à l'Évangile, c'est que quelqu'un nous l'a dit, l'Évangile. C'est que quelqu'un nous l'a transmis, de manière orale ou sous forme écrite ou même imagée. Mais quelqu'un nous l'a transmis, comme les moniteurs des potes du dimanche le transmettent en ce moment même. Quelqu'un nous l'a transmis. Et si nous remontons la chaîne des témoins de la vie et de l'enseignement de Jésus-Christ, si nous remontons cette chaîne jusqu'à sa source, ceux qui nous ont transmis l'Évangile, ce sont les apôtres. Nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ sans écouter les apôtres. L'Évangile de Jésus-Christ nous est parvenu au travers du témoignage des apôtres. 12 hommes qui ont suivi Jésus-Christ depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. 12 hommes qui sont les témoins directs de la résurrection. Judas avait trahi, Matthias l'a remplacé, pour qu'il y ait toujours 12 personnes de référence comme les 12 tribus d'Israël. Et avec autour d'eux, d'autres témoins directs, des collaborateurs pour porter le message plus loin. Marc et Luc, par exemple, les femmes qui accompagnaient Jésus, premiers témoins de la résurrection et appelés à leur tour à la proclamer aux disciples. Jésus avait donc préparé les apôtres à assumer ce rôle. Il savait bien qu'il allait les quitter. Il savait que le message devait ensuite s'en aller jusqu'au bout du monde. Il avait choisi les 12 pour porter le témoignage plus loin. Puis, Jésus en a choisi un autre, dans des circonstances exceptionnelles. Il s'est révélé directement à l'un de ses plus féroces ennemis, un rabbin ultra-orthodoxe, fanatisé, Saul de Tarse. Cet homme a vu le Christ ressuscité. Il a capitulé devant lui. Il a reçu l'appel de porter l'Évangile à toutes les nations. Ce grand inquisiteur est devenu apôtre, l'apôtre Paul, qui se présente donc au début de la lettre adressée aux Romains. Cette lettre, dit-il, vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu, l'apôtre Paul. Bien sûr que certains, jusqu'à nous aujourd'hui, contestent son autorité. Mais Paul lui-même et les 12 n'avaient aucun doute au sujet de son autorité. Par le Christ, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Verset 5. Première question. D'où vient l'évangile auquel nous croyons? D'où vient cet évangile qui nous rassemble? D'où vient cet évangile qui nous pousse en avant? Il vient des apôtres, témoins directs et choisis par le Seigneur lui-même. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous les entendons à travers les siècles. L'évangile nous vient des apôtres. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte, l'évangile? C'est quoi l'évangile? Un message comme quoi il faut faire du bien autour de soi, un message d'amour? Bien sûr que c'est essentiel, mais ce n'est pas le cœur du cœur de l'évangile. L'Église, la Bible, le Saint-Esprit, la mission, bien sûr que ça en fait partie, mais ce n'est pas encore le cœur du cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle, à mon sens, nous avons eu tout à fait raison de chanter tout à l'heure « Jésus soit le centre ». Le cœur de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Que dit Paul au sujet de Jésus-Christ? Eh bien, au verset 3, il dit d'abord que Jésus, dans son humanité, descend du roi David. Dans son humanité, dit le texte. Les faux évangiles qui ont commencé à voir le jour à partir du milieu du deuxième siècle n'acceptaient pas l'humanité de Jésus-Christ. Mais le témoignage des apôtres disent qu'il était bel et bien un homme, pas un esprit éternel déguisé en homme, pas un ange, nous dirions pas un extraterrestre, mais un homme qui descend du roi David, qui est au bénéfice de toutes les promesses faites à David, qui est héritier de la royauté, une royauté éternelle. Il est le Messie, le roi, le Christ. Et en même temps, dit notre texte, Jésus est le Fils de Dieu. Quand les apôtres disent ça, quand les apôtres disent « Jésus est Fils de Dieu », ils ne veulent pas dire que Dieu le Père a eu des aventures avec Marie. Aucun chrétien sérieux ne croit cela. Ils veulent dire que Jésus est de la même nature que Dieu, comme nos enfants sont de la même nature humaine que nous. Jésus est donc de la même nature que Dieu. Et la divinité de Jésus était comme voilée pendant sa vie sur terre. On pourrait presque dire même qu'elle a été démentie, la divinité de Jésus, par l'horreur de la croix. Mais lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts, la divinité de Jésus s'est vue puissamment confirmée. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, il est au cœur de l'Évangile. Un dernier mot significatif est utilisé ici au verset 5. Il est le Seigneur. Quand un rabbin comme Paul emploie le mot Seigneur, il parle de l'éternel Dieu. Il parle du roi de l'univers. Que son nom soit béni à jamais. Ce n'est pas un titre banal, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que juste César peut s'arroger. C'est un titre qui ne peut être attribué à personne d'autre. Il est Seigneur. Dire donc aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ, c'est reconnaître à la fois sa divinité et son autorité sur notre vie. Nous sommes invités à lui obéir si nous l'appelons Seigneur. Le cœur de l'Évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Et personne d'autre. Quel est son but? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pas seulement pour nous révéler certaines choses, pas seulement pour nous appeler à une vie meilleure, pas seulement pour nous proposer son exemplarité. C'est au verset 16 que nous trouvons cette explication. Paul dit « Je suis fier de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Sauver. C'est donc qu'il y a un danger, un péril. La suite du chapitre 1, les chapitres 2 et 3 en parlent longuement de ce danger, de ce péril. Et le péril que l'Épître aux Romains nous décrit, c'est le jugement de Dieu. Je sais que ça ne fait pas du bien à nos oreilles, je sais. C'est le jugement de Dieu, amplement mérité à cause de nos fautes. Le péril, c'est la colère de Dieu qui condamne toute forme d'injustice, qui condamne nos injustices, mes ratés. Et la lettre aux Romains nous dit que nous pouvons être sauvés de ce grave danger-là. C'est le verset 17 qui en dit un peu plus. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. C'est un verset qui, avec d'autres, plongeait le moine Martin Luther dans la terreur. La justice de Dieu allait foudroyer, cramer sur place le pécheur qu'il était. Jusqu'au jour où Martin Luther a compris que l'apôtre Paul ne parlait pas ici de Dieu qui juge et qui condamne, mais de Dieu qui reconnaît comme juste ou qui donne un statut de juste à des pécheurs qui croient. Ce que la Bible du Semeur traduit ainsi, l'Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. L'Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Il faut dire deux mots encore là-dessus. Dire que Dieu accorde sa justice. Dire que Dieu nous considère ce matin, nous, comme des justes. C'est dire que Dieu nous pardonne. C'est dire que Dieu nous pardonne. Dieu ne dit pas que nous n'avons jamais péché. Ce serait mentir. Dieu ne dit pas que le péché n'est pas grave, ce serait faux, et Dieu se rendrait complice du mal. Mais Dieu dit, mon fils, ma fille, mon fils à moi a payé pour toi. Tu es libre. Tu te tenais debout à la barre des accusés, mais un avocat est venu dire « Celui-ci, celle-ci m'appartient. J'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Il ne doit plus rien à personne si ce n'est une grande dette d'amour. » À partir de là, les jeux sont faits, la séance est levée. Rien ne pourra jamais te séparer de mon amour. Tu es, toi, mon enfant, compté parmi les justes. Juste non pas par tes qualités, parce qu'elles sont largement insuffisantes, mais juste parce que moi je t'ai racheté. Tu es à moi, pour toujours. Plus loin au chapitre 8, l'apôtre Paul dira « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est ça l'Évangile. Une puissance de libération, de restauration. Jésus-Christ venu pour sauver des pécheurs, des perdus, les faire inscrire au prix de sa vie sur la liste des justes. Quantité d'autres images du salut qui traversent la Bible. L'image d'un acquittement, l'image du don de la justice, c'est l'image principale des Romains. Et c'est un monument. Un monument. Il reste à élucider un dernier point, puis je conclue. Comment est-ce que ça marche, l'Évangile ? Du côté de Dieu, nous l'avons dit, il y a la croix. Christ, le juste, est mort pour nous des injustes. Il nous donne sa plus grande bénédiction là où nous méritions sa plus grande condamnation. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dit le prophète. Mais de notre côté à nous, est-ce automatique? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que quelque chose doit changer de mon côté? Il semble que oui. Verset 17, Paul le dit en quelques mots très laconiques. L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. De mon côté, j'accède donc au don de la justice de Dieu par la foi, pas par la foi de mes parents, pas en venant dans une église, pas par la qualité de ma vie parmi les hommes, mais par la foi, par un élan de confiance envers Dieu, par un engagement personnel, volontaire, durable envers Jésus-Christ. Ma foi n'est pas une œuvre qui crée le salut. Ma foi s'accroche à Jésus. Même quand ma foi est chancelante, elle s'accroche à Jésus. Et elle se souvient, ma foi, que ce n'est même pas le degré d'intensité de ma foi qui me sauve, mais son objet, Jésus. Je peux avoir une foi toute petite, toute craintive, qui peine à être formulée, et m'accrocher à celui qui peut tout. Le texte des Romains dit donc par la foi et pour la foi. C'est-à-dire, l'évangile m'est annoncé pour que j'y croie et pour qu'ensuite je mène une vie de foi, dans l'obéissance de la foi, comme dit le verset 5. Et c'est à cet endroit que nous verrons se développer les fruits de la foi. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La foi qui se développe, quoi. La foi en action. Sauvé par la foi, je vais vivre dans la foi. Des choses vont changer dans ma vie. La vie dans la foi est la preuve, le signe visible de ce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ et que je lui appartiens. Je conclus. L'évangile donc, comme puissance de pardon, de restauration et de changement. Je n'ai pas encore le plaisir de bien vous connaître, tous et toutes, mais je me réjouis de faire votre connaissance. Nous sommes probablement ce matin à différents stades dans notre compréhension de l'Évangile. Peut-être nous découvrons tout juste le témoignage des apôtres. Peut-être nous avons seulement découvert que Jésus-Christ est vraiment unique. Nous avons peut-être compris que l'Évangile nous offre le salut. Nous voulons passer le cap et dire « Jésus, sauve-moi ». Nous voulons nous engager, nous réengager dans une vie de foi. Nous voulons annoncer, incarner l'Évangile à la suite de Paul. L'Épître aux Romains, elle est pour nous. C'est un monument à visiter, à revisiter, à s'approprier comme tout à nouveau. Mais c'est un monument. Amen.
Je vous propose que nous restions un moment dans silence pour méditer ces paroles. Suite à quoi, je vous propose d'entreprendre un moment de prière communautaire, qu'elle soit intérieure ou exprimée. Sentez-vous libre vraiment de vous adresser à notre Père. Mais je vous propose de commencer par un petit moment de silence, de façon à méditer ces paroles. Oui, Père Céleste, je suis tout d'abord impressionné par tous ces témoins à travers ces 2000 ans qui ont transmis l'Évangile, qui ont transmis cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de nous rencontrer tels que nous sommes. Et c'est vrai, Seigneur, que de ton côté, tu as fait, de côté, tu as donné ton Fils. Et de notre côté, nous avons répondu aussi, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu sois notre Seigneur. J'aimerais que tu sois le Seigneur de ma vie. Amen.
recevons ton pardon. C'est par grâce que nous recevons la restauration. C'est par grâce que tu chemines avec nous au quotidien. Seigneur, merci pour ce cadeau. Et apprends-nous à le partager. Au nom de Jésus.
Amen. Oui, Seigneur Jésus, on a prié pour les enfants. Et c'est vrai que, Seigneur, ce sera les témoins de demain. Et Seigneur, merci parce qu'il y a cette chaîne ininterrompue depuis 2000 ans. Et Seigneur, pour annoncer ton salut, pour annoncer l'espérance, pour annoncer ton amour, pour annoncer que ta vie, la vie avec toi est une vie avec un sens. Alors Seigneur Jésus, merci pour ce rappel, merci pour l'apôtre Paul, merci pour cette lettre aux Romains, merci parce qu'ils ont été tes témoins dès le début, malgré les difficultés, malgré les martyrs, et ils ont transmis ton évangile, ta bonne nouvelle, ta personne jusqu'à nous, alors que nous puissions être dignes de ce témoignage, en donnant aussi le nôtre. Amen. Je vous demanderai de me rejoindre pour la Sainte Cène. Pour cette Sainte Cène, j'avais envie de vous lire, je ne sais pas chez les Romains, mais chez les Hébreux. Donc peut-être ça se complète. Je pense que ça se complète. Dans Hébreux 10, les versets 18 à 22. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Et le sanctuaire est la maison de Dieu. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et j'ai bien aimé ce texte parce que, d'abord, le sanctuaire, c'est la maison de Dieu, on peut s'approcher de la maison de Dieu. Nous y avons libre accès par le sacrifice du Christ. Et j'aime bien aussi cette notion de route nouvelle et vivante. C'est pas un truc. C'est vraiment un truc où Jésus nous appelle à vivre, à marcher sur une route nouvelle et vivante. Donc c'est quelque chose de dynamique. Et j'aime bien cette dynamique. Je ne sais pas si je peux vous transmettre le mot. Nos fardeaux sont, c'est vrai, à la croix, grâce au corps et au sang de Jésus, ce qui nous permet de nous décharger, sur cette croix et nous approcher avec la table avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, cette eau pure qui coule des Alpes, vous savez, qui est transparente et limpide. Et j'ai envie de vous demander, peut-être après, en passant le pain dans les rangs, que vous ayez une parole justement de bénédiction par rapport à la personne qui est après vous. Bénissez-le en disant, je te bénis. Et là, parce que la Sainte Cène, c'est quelque chose de vivant aussi, c'est la mort de Jésus. Et la résurrection aussi. C'est sur cette voie, sur ce chemin, sur cette route vivante et nouvelle que Christ nous appelle à vivre. Alors bénissez votre prochain lors de la distribution de la Sainte Cène. Et nous lirons, je demande à Séverine de lire. l'institution.
Alors je lis dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26. Car voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous annoncer sa mort, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe.
Nous rendons grâce. C'est le cœur plein de reconnaissance, cher Seigneur, que nous prenons ce pain et ce vin en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton corps brisé, pour le sang versé, qui nous garantit la paix avec Dieu. Merci pour ta justice dont tu nous revêts. Et merci pour la perspective de prendre un jour ce repas avec toi. Nous nous réjouissons de ce jour, Seigneur. Nous nous réjouissons de ta bonté à notre égard. Amen.
Je demanderai peut-être à deux personnes de venir nous aider pour la distribution. Donc, comme d'habitude, vous avez au centre le vin sans alcool et puis à l'extérieur, donc, les petites coupelles avec alcool. Et ceux qui souhaitent la coupe directement, vous n'avez qu'à lever la main et puis Philippe vous l'apportera. Et si vous avez sur le cœur un chant ou une prière, sentez-vous libre de l'exprimer. Je vous propose qu'on conclue ce moment de sainte-aine par le Notre Père. Je vous propose de vous lever. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci. Je vous propose de rester debout parce que nous allons procéder à l'offrande. Donc les musiciens vont nous guider dans le chant En Jésus seul. Cette offrande. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre cette offrande. Et Seigneur, c'est vrai, dans la lignée des transmissions de l'Évangile, Seigneur, nous voulons qu'elle serve aussi pour l'Évangile, pour qu'il puisse être transmis dans les générations suivantes et, Seigneur, autour de nous. Alors, Seigneur Jésus, bénis cette collecte, Seigneur, qu'elle puisse être utilisée pour ta gloire et nous voulons te remettre ceux qui la gèrent et ceux qui s'occupent de notre Église aussi. Alors Seigneur, bénis cette offrande et merci Seigneur pour ton don. Et Seigneur, c'est vrai que nous pouvons te donner un petit peu du nôtre. Alors Seigneur, bénis-le. Amen. Voilà, nous allons passer dans un temps des annonces. Alors peut-être Denis ? Non ? Après ? D'accord. Alors moi j'en ai une à faire. Ça concerne la framboise, donc la petite garderie qui se trouve au sous-sol et qui fonctionne en semaine. Donc j'ai le trésorier et la secrétaire qui vont nous quitter l'année prochaine et c'est vrai que je cherche des membres du comité pour les remplacer. Donc si vous avez quelques notions de comptabilité ou de secrétariat, c'est volontiers que vous pouvez venir vers moi. Je fais l'annonce assez tôt parce que c'est vraiment une activité qu'on a à cœur au niveau de l'EM Et puis, c'est vrai que ça serait bien s'il y a le passage de témoins qui puisse se faire en douceur, c'est-à-dire être formé pendant l'année jusqu'au départ des titulaires. Donc pour la framboise, un secrétaire et un trésorier. Une secrétaire, enfin, c'est égal. Merci. Oui. Tu veux la faire avant ou après, c'est Michel? Après les... Alors Michel, est-ce que tu peux peut-être venir? Et puis, je laisserai la parole à Denis après.
Alors, les annonces du jour. Et pendant qu'elles s'affichent, je vous en fais une première. Vous trouverez sur une des tables, dans le foyer, le magazine de Jeunesse en Mission Suisse Romande. Pourquoi il est là sur la table? Parce qu'en première page, vous avez la famille Terra Incorpore. 1, 2, 3, ouais, non, tout le monde est là, oui, tout le monde est là. Incorpore, ils sont Incorpore, voilà, et ils présentent le ministère Jeunesse en Mission Genève, JEM Genève. Et puis, en troisième page, vous avez un témoignage de Marie Parnigoni. Donc, en fait, deux membres de l'Église qui sont présents dans ce magazine que vous trouverez donc sur une table à la sortie. Voilà. Les autres annonces du 10 septembre. D'abord, quelques éléments qui reprennent des éléments du mémo. Mardi, la rencontre des musiciens. Le groupe de jeunes cet été, le 13. Mercredi, jeudi, une rencontre du conseil. Samedi 16, donc le groupe de jeunes cet été, c'est Chrétiens tout terrain. Ils mettent en œuvre leur nom et s'en vont à la campagne confectionner des ventes de tartes aux pommes et vendre, confectionner et vendre des tartes aux pommes au verger de Saint-Loup. Ils le font pour financer leur camp de ski. Samedi 16 septembre. 14-15 octobre, c'est le week-end de l'Église. La bénédiction, c'est le thème. Des infos et des flyers sur le panneau d'affichage et surtout une date limite d'inscription le 17 septembre. Il y a encore de la place. Hein. Vous pouvez venir vers moi, Claire-Lise est absente aujourd'hui, vous pouvez venir vers moi si vous voulez des informations supplémentaires. Il y a des flyers également, vous avez aussi une possibilité de vous inscrire par email. Vous avez reçu durant la semaine un email à ce sujet. Mardi 19, Vision du monde et place de Satan, c'est la série d'ateliers bibliques qui débute ce mardi-là à 19h30 par une petite collation. Le sujet débute à 20h. Le 24 septembre, on l'a déjà entendu, sortie des potes à Vitam, ça fait du bien de le rappeler. Inscription info auprès de l'équipe des monos dès aujourd'hui. 22 septembre, c'est la reprise du cathé. Voilà, pour les jeunes de 13 à 15 ans, 19-21h, c'est une équipe qui mène ça avec Philippe Anchaud comme leader. Vous pouvez inviter, si vous connaissez des jeunes qui sont dans cette tranche d'âge, c'est ouvert à des personnes qui seraient, des jeunes qui ne seraient pas de l'Église, par exemple. Vous pouvez vous adresser à Philippe si c'est le cas. 23 septembre, voilà, à Rocha. Alors, tout est écrit là-dessus. Moi, je ne l'ai pas lu, celui-ci, dis donc. On recherche des volontaires pour l'animation des ateliers. Plus d'informations auprès de Sylvain Dupertuis. Ça va comme ça? Oui. 30 septembre, la journée de porte ouverte à la Marive, à Yverdon. Et 30 septembre également, les 200 ans du réveil à Genève. C'est une formation découvrir un renouvelé de ses conséquences sociales. C'est une formation Free College. Free College, c'est donc la formation propre à notre fédération d'église. Ils ont une session à la Pélisserie autour de ce thème. On vous encourage à y aller et vous voyez qu'il y a un concert à l'issue. Et puis, 1er octobre, au centre paroissial œcuménique de Mérin, le spectacle de la Marelle, ben, Luther est à l'honneur. Voilà, bon dimanche.
Oui, alors bonjour à tous. Samedi prochain, en fait, ça va faire 2 mois que papa nous a quittés. Et puis, je voulais tous vous remercier pour vos dons, votre présence, vos messages de sympathie et de condoléances. Mon papa, me manque, nous manque. Et puis, voilà. Je crois qu'il affectionnait aussi en chant, que je voudrais demander. Ouais, si Sylvain, il est là déjà, merci. Donc, c'était pour le chant qui va. Je prends ses paroles, voilà. Non, c'est pas ça. Non. C'est
quand il y a un fait de Dieu.
Non, mais c'est quand le vol de la tempête.
Non. Non, c'était quand les bienfaits de Dieu.
Oui, c'est
ça. Ouais. Ah bah oui, pardon.
C'est le refrain, mais.
Ouais, ouais. Alors voilà. Alors si on peut chanter ça à la mémoire de papa.
Comme l'a dit Denis, donc ils sont 4 frères et Denis est le fils cadet. Donc ouais. Je vous propose qu'on se lève et qu'on chante ce chant, un peu en souvenir de Pierre, et puis aussi pour la famille.
Tu veux les 4 versets?
Si on a le temps. Non, mais peut-être, je sais pas.
Deux.
Ouais, deux déjà. Voilà.
Restez debout pour la bénédiction. Et merci pour ce souvenir de Pierre Girardet, qui était un membre assidu de notre assemblée.
Que le Dieu de toute grâce, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous rassemble, vous accompagne pendant cette semaine. Belle semaine.